Bienvenue dans Affaires suivantes. Si vous nous rejoignez, Dany Le Prince aura droit à un nouveau procès, sans doute dans quelques mois à Angers, comme l'autorise la Cour de révision. 30 ans de bataille judiciaire, un quadruple meurtre toujours irrésolu qui a coûté la vie à son frère, sa belle-sœur et deux de ses nièces. J'accueille Dany Le Prince, merci d'être avec nous. J'accueille vos avocats à vos côtés, Maître Olivier Maurice, Maître Missiva Shermak-Felono, et à nos côtés aussi, j'accueille Maître Myriam Keladi Reynard, avocate de Solène, la nièce rescapée de Dany Le Prince, rescapée de ce quadruple meurtre. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Simplement pour ceux qui sont nés après l'affaire de Tourigny-sur-Dvé, je vous propose d'abord un rappel des faits avec Pierre Lebousset.
Dany Le Prince, condamné à la perpétuité pour le meurtre en 1994 de son frère Christian, de sa belle-sœur Brigitte et de ses deux nièces, Audrey et Sandra, 7 et 10 ans, dans la maison voisine de la sienne. Toute la famille, à l'exception de la cadette, Solène, 2 ans, a été retrouvée morte. Assassinée avec cette arme, une feuille de boucher, habituellement rangée dans un tiroir chez Dany et sa femme, Martine Le Prince. Une tuerie et un coupable tout trouvé. Dany Le Prince, 37 ans à l'époque des faits. Sa femme et sa fille l'accusent. Le procureur, lui, avance un mobile, un différend financier entre les deux frères.
Des raisons peut-être d'intérêt ou de jalousie, enfin, les vieilles motivations qui font malheureusement parfois, dans le mauvais sens, marcher le monde.
En garde à vue, Dany Le Prince reconnaît avoir tué Christian, avant de se rétracter dans la foulée. Des aveux qui n'ont aucune valeur selon son avocat de l'époque. Il dénonce un manque de preuves.
Aucune trace matérielle, il n'y avait pas d'empreinte digitale, il n'y avait pas de trace ADN, il n'y avait pas de trace de pas, il n'y avait pas de trace palmaire, il n'y avait rien.
Dany Le Prince est-il condamné à tort? Un long parcours judiciaire, mais pour lui qui se dit innocent, des questions qui restent en suspens. Et notamment le rôle qu'a joué sa femme de l'époque, Martine, dans cette affaire. Au cours de l'enquête, à plusieurs reprises, elle change de version, assure ne plus se souvenir du déroulé exact de la soirée du meurtre. Selon des expertises, elle aurait pu simuler ses pertes de mémoire. Dany Le Prince, qui sera donc jugé à nouveau, la date de son procès n'a pas encore été dévoilée.
Alors, Dany Le Prince, merci d'être avec nous, merci de revenir. Vous étiez là dès jeudi, sur ce même plateau, et jeudi, je me souviens, on vous a senti sonner sans trop pouvoir réaliser ce qui allait se passer pour vous. 3 jours après, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous réalisez un peu plus?
Alors, je me sens un peu mieux, mais je suis quand même un petit peu sonné. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Procédure de révision, c'est déjà un marathon, et c'est un travail énorme de mes avocats. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça ne se fait pas comme ça, une procédure de révision, c'est plus qu'un marathon, hein, c'est un truc de fou.
Voilà. Quels sont les sentiments qui vous traversent pour bien essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête?
Je n'ai pas encore tout réalisé, mesuré. Je connais l'importance de cette décision. Mais c'est encore, il faut que je me retire de Paris pour mesurer pleinement.
Prendre du champ.
Oui.
Alors, on va revenir sur cette décision, Dominique.
Ouais. La décision a été cassée, elle n'existe plus, donc vous êtes innocent.
C'est énorme.
Ça change quoi dans votre cerveau?
Pas grand-chose, parce qu'il y a encore des échéances à venir, et donc il ne faut pas, les galvauder, il faut y penser, voilà, mais il faut se préparer, quoi. C'est pas... Il n'y a pas que moi, il y a aussi la vérité de l'affaire et il faut savoir qui a massacré ma famille. C'est très important.
Alors on va revenir justement sur la motivation de la Cour de révision. Il y a deux éléments nouveaux qui sont venus fragiliser le dossier. Solène et son instrumentalisation, et puis les multiples versions et les pertes de mémoire de Martine Compain, on y reviendra. Mais avec vous, Maître Myriam Keladi Reynard, comment est-ce que votre cliente, Solène, elle a vécu et elle a éprouvé cette journée? Alors, elle n'était pas à l'audience jeudi, mais je sais que quand elle est venue témoigner, il y a quelques mois déjà, ça avait fait... ses mots avaient énormément pesé dans cette salle d'audience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle aujourd'hui?
Pour elle, aujourd'hui, l'enquête peut enfin commencer. Parce que ça fait 30 ans qu'elle essaye de se construire sans souvenir, sans histoire. et sans aucune possibilité de rechercher la vérité, puisque cette condamnation de Daniel Le Prince faisait obstacle à toute recherche de la vérité. Et pour autant, les questionnements qu'elle avait demeurent et la taraudent, puisque elle est la seule rescapée d'un massacre. Elle n'a pas de réponse à ses questions et à chaque fois qu'elle veut avancer dans ses questionnements, il lui est rétorqué que l'enquête est terminée. Donc c'est pour elle un pas énorme. Il faut voir que depuis 30 ans, elle essaye de se construire avec quelque chose et avec cette parole qu'on lui a
fabriquée,
finalement totalement fabriquée, ce sont quand même les propos d'un bambin qui n'avait pas la parole à cette époque-là. C'est une personne aujourd'hui, Solène Leprince, et qui l'a dit à la cour, et que moi je peux vous le redire, qui n'a aucun choc psychotraumatique, qui s'est développé d'un point de vue psycho-affectif et surtout psychologique, totalement normal.
Donc traduction, elle ne se souvient de rien.
Ah mais c'est même pas traduction, c'est une affirmation.
Non mais pour nos téléspectateurs.
Elle, bien sûr,
je fais de la pédagogie.
Permets, je me permets moi-même de vous le dire.
Oui.
C'est une affirmation, elle ne se souvient de rien et surtout, elle refuse qu'on lui prête les souvenirs qu'elle aurait pu avoir à cet âge-là.
On va peut-être préciser que c'est sa nounou hein, qui va déclarer... des choses, la petite a 2 ans, derrière une porte dans sa chambre, elle a grandi depuis, donc finalement vous vous retrouvez dans le même camp. Solène qui veut connaître la vérité sur la mort de ses parents et de ses 2 sœurs, vous qui voulez connaître la vérité sur la mort de votre frère, belle-sœur, et comment est-ce que vous avez pris contact, Solène et vous? Parce que quand vous partez, quand vous partez
Dany
en détention,
de,
elle, quand vous
êtes,
elle, a
de la
tête. Elle a 2 ans. Comment ça s'est passé? Vous êtes sorti de détention et ensuite vous êtes retrouvé dans le même combat. Vous vous êtes rencontré, vous vous êtes retrouvé. Comment ça s'est passé?
Non, moi je rentrerai pas.
Maître,
je laisserai.
Pouvez nous répondre.
Conseil de.
Je n'ai jamais rencontré Solène Leprince.
D'accord.
Mais votre question est intéressante. Mais très franchement,
parce que maintenant c'est le même combat.
Elle ne présente aucun intérêt par rapport à ce qu'a rendu la cour de révision.
Mais
voyez-vous, parce que d'abord la cour de révision, la cour de révision n'a pas cassé cette décision. La cour de révision a annulé une condamnation, ce qui est totalement différent et beaucoup plus puissant. En réalité, Solène Leprince, ce qu'elle veut, c'est surtout comprendre les mensonges qui sont évidents de Martine Compain. Et ces mensonges-là. Ce n'est pas Dany Le Prince qui a une explication à lui donner, puisque Dany Le Prince ne sait rien de tout cela. Et c'est ce qu'a indiqué, voyez-vous, la cour de révision, et qui me semble très importante, c'est que, en fait, Martine Compain, elle a menti en toute connaissance de cause, elle a simulé.
C'est ce que dit effectivement le mot simulation est dans la motivation.
Simulé, c'est considérable, ça signifie que celle qui est l'accusatrice principale de Dany Le Prince a simulé. Et l'autre témoin principal de ce meurtre aurait été une petite fille de 25 mois qu'on a fait parler, puisque la seule qui aurait vu les crimes concernant la belle-sœur et les deux enfants, c'est Solène. Il n'y a rien d'autre.
Maître, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, ben je souhaiterais ajouter quelque chose pour répondre à cette question d'éventuelle prise de contact pour finalement se rejoindre sur ce combat. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que d'un point de vue juridique, Solène Leprince a un statut, qui est le statut de partie civile. Ce statut a fait qu'elle a été informée de la procédure de révision et qu'elle a pu elle-même participer à cette procédure.
Ah oui.
Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a souhaité effectivement faire connaître sa volonté, elle, de participer à cette procédure de révision pour les raisons que vous avez énumérées, que vous avez rappelées, à savoir, et je pense que c'est extrêmement important même pour les téléspectateurs, qu'elle refuse de devenir et d'être le témoin clé qu'elle a été dans ce dossier. C'est comme ça, finalement, qu'elle est en fait intervenue à la procédure et non pas par une prise de contact, mais plus par la procédure elle-même qui le permettait.
Très bien. Alors, à l'origine, Dany Le Prince, et il faut revenir, je pense, au tout début, en garde à vue, au tout début de l'affaire, vous avez avoué avant de vous rétracter. Mais moi, j'aimerais comprendre, et que vous nous le racontiez avec vos mots, dans quelles conditions se sont déroulés ces aveux.
Tout d'abord, quand j'apprends le drame s'est déroulé dans notre famille. Moi, je suis abattu. Et évidemment, jusqu'à la garde à vue, je ne vais pas dormir de la nuit. C'est quand même pas rien, quoi. En plus de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne n'a rien entendu. Moi, personnellement, j'ai rien entendu. Et donc, on se retrouve en garde à vue. Et donc, moi, j'arrive en garde à vue. Je suis déjà
crevé. Épuisé.
Et ça, les gendarmes, ils le savent. Hein. Ils le savent très bien. Bon, je vais vous passer les premières heures de garde à vue parce que ça se raconte pas, enfin bref. Mais c'est vers la fin de la garde à vue où il y a une bonne dizaine de gendarmes qui viennent autour de moi, qui viennent me dire il faut que tu avoues, ta femme t'a vu courir après ton frère avec une feuille de boucher. Et le gendarme qui me dit ça, c'est le gendarme qui s'occupe de la garde à vue de mon ex-femme.
Martine Comte.
Pour arrêter de raconter n'importe quoi. Hein, parce qu'il se consulte. Normalement, il ne devrait pas, mais il se consulte. Mm-hmm. Et donc, moi, je demande ce qui se passe, quoi. Et puis après, j'entends des cris.
Des cris.
Des cris de femmes, de jeunes filles. Enfin, je ne sais pas trop, parce que moi, je ne sais plus si c'est jour, nuit, j'en sais rien.
Dans les bureaux de la gendarmerie.
Dans les bureaux de la gendarmerie. Oui, parce qu'on sort pas. Hein. Et quand on nous parle de pause en garde à vue, ça, c'est du pipeau. Hein. Ça n'existe pas, ça. Et donc, j'entends ces cris, je me demande ce qui se passe. Et là, il y a un gendarme qui vient me voir et me dit, c'est des cris de ta fille, enculée, qui sont là. Alors moi, je comprends plus rien, je prends peur pour ma fille. Et donc, je vais répéter, hein, je ne veux pas tout raconter, je vais répéter les dires de l'enquêteur, et je peux citer son nom, hein. C'est Perdriau, hein, le gendarme Perdriau, un enquêteur.
Votre fille, à l'époque, elle a quel âge, pardon ?
Elle a 16 ans. Ouais. Elle n'a même pas 16 ans. Et donc, la garde à vue se termine comme ça, mais il ne pose pas de questions pour les autres, ils s'en foutent, il faut un aveu, quoi. Et donc, ce n'est que quelques jours plus tard, le 29 septembre 94, si mes souvenirs sont bons, j'étais déjà revenu sur mes aveux lors de la première reconstitution.
Oui.
Et là, me dit le juge, je vais vous reconvoquer rapidement, et ainsi de suite. Et donc, je lui parle de ça pendant l'audition, et elle me dit, mais c'est pas votre fille que vous avez entendue, puisqu'elle était entendue à ce moment-là, à Conly, à 40 km du Mans.
Donc, géographiquement, elle ne pouvait pas être dans les mêmes locaux. Donc, c'était qui ?
Impossible. Et c'était une femme gendarme qu'ils avaient fait crier, les enquêteurs, pour la faire passer pour ma fille. Alors, évidemment, quand je raconte ça, évidemment, on me prend pour un cinglé, quoi. Mais c'est une réalité. Alors, moi, je vais faire une petite parenthèse. J'en avais parlé à un journaliste de West France. J'ai dit, ça serait bien de raconter un peu ce que j'ai vécu.
En garde à vue.
Ah, ben, non, je ne peux pas faire ça. Hein. J'ai dit, si c'est un gendarme qui vous le dit, vous allez faire. Et là, il ne m'a pas répondu.
Ce qui est vrai, c'est quand vous avez fait un coup... les gendarmes, pardon, vous avez fait un coup tordu, parce que la garde à vue, c'est là que j'ai découvert que ça pouvait exister. Ce n'est pas une garde à vue à 6h du matin, je crois que c'était un mercredi soir, mais j'y étais. Hein. Quand ils viennent vous chercher, je suis là, je suis dans la cour de votre maison. Et ils viennent vous chercher à 20h45. C'est-à-dire que quand la garde à vue commence, ce n'est pas une garde à vue du matin. Quand on vient chercher quelqu'un à 6h du matin, il sort du lit, il est frais. À minuit, il a passé une journée complète, il est fatigué, mais il est minuit. Quand on vient chercher quelqu'un à 20h45, quand le corps est en garde à vue, à 6h du matin, ça fait que 9h qu'il est en garde à vue, mais il est 6h du matin et il est déjà fracassé.
Et ce que raconte Dany Le Prince sur la fin de la garde à vue, je crois, sauf erreur de ma part, qu'on est à la 46e heure.
Exactement.
Donc,
vous imaginez le chemin. 46e heure, c'est l'heure où vous n'avez pas dormi. Quoi. C'est...
Moi, je n'ai pas dormi depuis le lundi.
Ouais. Depuis le lundi matin, 8h30, moment où on découvre le corps de...
Et il n'est pas assisté par un avocat.
Autre pratique de garde à vue.
Et je me suis levé à 2h30 pour aller au travail.
À l'époque, il n'y a pas de présence d'avocat.
Ah, vous êtes en horaire décalé. Et en plus, vous êtes en horaire décalé. Donc en fait, vous n'avez pas dormi depuis deux jours avant d'arriver en garde à vue. Quoi.
Non, mais c'est horrible. Ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse, parce que finalement, c'est vraiment une femme gendarme qui a crié. Et ça, c'est odieux.
Alors par ailleurs, il y a pas mal...
Alors, c'est la raison pour laquelle que par la suite... Ils vont s'amuser, ils vont bricoler, ils vont essayer de faire rentrer des ronds dans les carrés, hein, que ce soit les enquêteurs, voire la juge et peut-être le proc, pour décaler l'heure des crimes.
Antidaté alors ?
Bah, ils vont pas.
Décaler l'heure des crimes.
Non, simplement avoir une piste très rapidement, c'est celle de Dany Le Prince. On va rien chercher d'autre. Si vous voulez, c'est la vision tunnel, ce que l'on appelle. En matière criminelle, la vision tunnel, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui passe des aveux d'ailleurs partiels, puisque vous savez que l'arrêt qui va saisir la cour d'assises dit qu'il a avoué les quatre crimes, ce qui est faux. Ce qui est faux. Bien. Et puis, à partir de l'instant où il y a ces aveux, on se dit, ben, on a un coupable potentiel, et puis on fonce. Et tout est orienté comme cela. Et c'est pour cela que, vous voyez, aujourd'hui, la décision qui est rendue par la Cour de révision, qui est une décision historique, exceptionnelle. Hein. C'est-à-dire que ce qu'a rendu comme décision la Cour de révision, c'est une véritable œuvre judiciaire. Il faut comprendre cela. C'est rarissime et en même temps, c'est aux magistrats, puisqu'ils sont 13, ils savent que derrière, il y a le spectre de l'erreur judiciaire qui pointe. Ils en ont parfaitement conscience. Et c'est pour cela que j'ai dit, en sortant de cette audience, que Martine Compin, donc l'ex-femme de Dany Le Prince, avait du souci à se faire.
Oui.
Elle a vraiment du souci à se faire. Pourquoi ? Parce que si ça n'est pas Dany Le Prince, c'est bien quelqu'un. Et quel est l'intérêt pour Martine Compin d'avoir simulé, d'avoir accusé son mari d'une manière tellement fausse et mensongère, si ce n'est pour masquer ses potentielles responsabilités.
Alors aujourd'hui, on le rappelle, elle est témoin assistée. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est quoi la suite ? Parce que une fois la révision passée et ce procès qu'on attend dans quelques mois, est-ce que Martine Compin peut être inquiétée d'une manière ou d'une autre ?
Oui, évidemment. Elle peut tout à fait. Là, comme vous l'avez rappelé, actuellement, elle est placée sous le statut de témoin assisté dans le cas d'une instruction ouverte au Mans. Mais une fois, bon, maintenant la condamnation de Dany Le Prince est annulée, on peut tout à fait envisager une mise en examen de Martine Compin.
C'est la configuration.
Allez-y, maître. J'ai ajouté quelque chose pour compléter les propos de Siva Chermac-Felono. Dans le cadre de cette instruction au Mans, le procureur avait demandé la mise en examen de Martine Compin. Ça a été refusé par le juge d'instruction. Oui. Il y a eu appel de cette ordonnance de refus. Et puis finalement, le parquet général s'en est remis à la décision de la juge d'instruction et n'a pas poursuivi cette demande de mise en examen. Il se trouve que j'y étais puisque je représentais Solène Le Prince. Nous avons très longuement plaidé. Martine Compin était présente, assistée de ses avocats, et l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a été rendu a repris d'une part les simulations et les multiples contre-vérités de Martine Compin, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cet arrêt rappelle que tous les éléments qui ont pu être relevés à l'encontre de Martine Compin et qui auraient pu fonder, ou en tout cas être considérés comme des indices graves ou concordants, ne pouvaient l'être en l'espèce en raison de la condamnation définitive de Dany Le Prince. Aujourd'hui, tout cela, c'est faux.
Aujourd'hui, la voie s'ouvre.
La voie s'ouvre.
Et on est dans une configuration qui rappelle l'affaire Dils, Patrick Dils, condamné, rejugé, recondamné, mais bon, acquitté finalement. Et Patrick Dils est innocent, c'est votre cas, là, jusqu'ici. Et ensuite, on va faire un procès Francis Holmes, ce qui veut dire que si Martine Compin comparaît un jour, on reviendra la chercher en lui disant, madame, on a des raisons de penser que vous n'avez pas dit toute la vérité, qu'on vous soupçonne de, point de suspension, parce que je ne veux surtout pas m'engager dans quelque chose de... Et je veux dire, c'est comme ça que ça doit se passer, normalement.
Vous savez, en plus, ce qui est quand même terrible, il faut s'en souvenir parce que c'est un peu lointain maintenant, mais Patrick Dils, il a été acquitté en 2002.
Oui.
Et Francis Holmes, dans un premier temps, il bénéficie d'une ordonnance de non-lieu en 2007.
Oui, c'est vrai. J'ai oublié ça.
Et il ne sera définitivement condamné qu'en 2017.
Donc c'est très long.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De 2017. Ouais. C'est-à-dire
que. Ça veut dire que le chemin est encore très long.
Mais c'est-à-dire que le chemin est très long pour la justice.
Oui.
Peut-être pour connaître la vérité.
Oui.
Mais le chemin pour Dany Le Prince, nous sommes extrêmement confiants devant la cour d'assises parce que à travers la décision qui vient d'être rendue par la cour de révision, c'est l'accusation qui s'effondre.
Oui.
C'est un château de cartes. Pourquoi ? Parce que Solène Le Prince, elle n'est plus l'accusatrice. Et puis parce que Martine Compin, elle simule. Donc il reste quoi ? Il n'y a pas de trace ADN.
Bah alors il n'y a
aucun élément scientifique.
Il reste, moi je me tourne vers vous, général, il y a tellement d'incohérences dans ce dossier. Il y a des traces de pas, il y a un espace-temps qui est beaucoup trop serré pour arriver à commettre cet horrible quadruple meurtre en si peu de temps. Donc en fait, il y a quand même un certain nombre de choses qui... Je reprends l'expression de Dany, ils ont voulu faire rentrer des ronds dans des carrés.
Alors ça, je laisse... aux enquêteurs, aux juges à l'époque, toute leur responsabilité par rapport à ça. En revanche, toutes les traces qui ont été là, ce sont des traces matérielles, factuelles, qui ne peuvent pas être balayées de revers de la main. Mais elles ont besoin d'être interprétées. Interprétées à l'aune de tout ce que vous avez dit, à la fois des horaires qui doivent être des horaires cohérents et remis dans le contexte, et cette frise chronologique de quand, comment ou autre, elle ne doit pas être fabriquée, mais elle doit être constatée, ce qui est différent. Et toutes les traces qui peuvent être attribuées finalement à quelqu'un d'autre, c'est là où toute l'interprétation a son sens. C'est que si on a voulu les mettre sur le dos de quelqu'un ou les écarter parce que justement, ça ne permettait pas de désigner quelqu'un,
il faut tout remettre dans le tamis, quoi, dans un autre tamis.
Ouais. Il faut avoir à l'esprit que sur la scène de crime, on a de l'ADN, on a des traces de pas, on a des empreintes digitales.
On n'est pas démunis, en fait.
Mais ce ne sont pas celles de Dany Le Prince. Voilà. Et c'est pour ça que pendant l'enquête initiale, elles ont été écartées parce qu'elles ne collaient pas avec la thèse de l'accusation.
Mais ça, ça relance c'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'en fait, on a les outils, mais il faut les revisiter.
Et en revanche, on a retrouvé l'ADN mélangé de Martine Compain avec Audrey Leprince. Je ne sais pas si vous imaginez.
Sur la lame.
Je ne sais pas si vous imaginez, si on avait retrouvé l'ADN de Dany Le Prince mélangé avec Audrey Le Prince, mais on aurait dit, mais voilà, la preuve matérielle est évidente.
Mais maître, donc c'est
elle. Pas là.
Enfin, je veux dire, s'il y a son ADN mélangé.
Alors on n'y est pas. On n'y est pas. Et on reste prudent, s'il vous plaît.
La justice, la justice va la chercher. On s'entend, on est en train de se parler ici, bien sûr qu'elle est présumée innocente. Mais si on trouve son ADN en même temps que l'ADN de la victime, on va quand même aller lui demander, madame, expliquez-nous ça. J'imagine que ça a été fait quand même.
Comme cela a été dit tout à l'heure, en fait, elle aurait dû être mise en examen.
À minima.
Oui. Par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers. Et si elle ne l'a pas été, c'est parce que on a considéré que Dany Le Prince était condamné définitivement. C'est écrit d'une manière explicite dans l'arrêt de la chambre de l'instruction. Aujourd'hui, cet argument-là, il s'effondre. Dany Le Prince, sa condamnation est annulée, il est présumé innocent. Et le raisonnement de la chambre de l'instruction était de dire, elle a menti, c'est pas conforme à la réalité, et en fait, on retrouve de l'ADN. C'est quand même gênant. Mais la question qu'on peut se poser tout de même, c'est que pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été mise en cause initialement dans le cadre de cette affaire ?
On s'est tous posé la question.
On s'est tous posé la question.
Notamment ceux qui étaient sur place.
Et ce qui est très intéressant, c'est que l'arrêt... C'est que l'arrêt de la cour de révision pointe du doigt la responsabilité potentielle d'un gendarme, d'un major... qui était très proche de la nourrice, et on sait que ce major, en dehors même de toute règle déontologique concernant la procédure, il a organisé une rencontre après les faits entre Martine Compain et Nelly Hatton. Et ensuite, elle change de version. Oui. C'est hallucinant ce qui s'est passé.
Donc, il y avait une porosité qui était de facto première et qui a dû, à mon avis, abîmer toute cette enquête
La cour de révision a le courage remarquable de dire, de pointer du doigt les relations entre la nourrice et ce gendarme.
À l'époque, c'est vrai que Dany Le Prince est celui qui fait l'affaire. Donc ça va aller vite, ça va être vite réglé.
Bah, ça arrange tout le monde d'une certaine manière. Il y a un coupable et puis
c'est l'idéal. Mais du point de vue de Solène Le Prince, vous voyez, c'est exactement ce qui fait obstacle à la recherche de la vérité pour elle. Puisque Solène Le Prince, elle est retrouvée dans sa chambre, dans son lit. Il n'y a aucune trace de sang, ni dans cette chambre, ni sur la porte.
Échangée. Sa couche a été changée.
Alors, ça
ou pas. Non, elle n'a pas été changée.
Elle n'a pas été changée. Vous voyez, c'est intéressant parce que
les constatations de départ en 94, elle a sa couche de nuit. D'accord. Ensuite, on a donc Solène Le Prince est confiée à Nelly Hatton qui s'intéresse de très très
la
très,
nourrice.
Très très la nourrice à cette enquête qui va développer quand même des relations très privilégiées avec un gendarme en charge de l'enquête qui est en cours. Ce gendarme va organiser à la demande de la nourrice une rencontre entre cette nourrice et Martine Compain dans une galerie marchande. Ces dames vont se rencontrer, vont discuter. Et à la suite de cette rencontre, la nourrice va faire la démarche d'écrire au juge d'instruction. Elle va être réentendue et elle va indiquer à ce moment-là, non, Solène avait une couche propre et sentait le bain. Cette version change après une rencontre. Donc vous avez ça. Et puis je reviens très rapidement sur l'ADN, le mélange d'ADN sur le couteau. C'est quand même un argument qui est très fort, qui avait été soulevé par le parquet lorsqu'il a sollicité la mise en examen de Martine Compain. Et lorsqu'elle a été rejetée dans l'acte d'appel, ce mélange d'ADN a été rappelé. Donc évidemment que devant la chambre de l'instruction, on s'attendait effectivement à ce que cet argument soit repris. Il a été repris par le parquet général pour dire que oui, mais en fait, c'est un couteau qui a été retrouvée dans la cuisine.
Donc tout le monde peut l'utiliser.
Martine Pompin avait pour habitude de garder ses nièces.
J'ai compris l'argument.
Donc, évidemment, les enfants qui ont 8 ans jouent avec des couteaux de cuisine de cette nature-là dans une cuisine
et on sent
laisser de l'ADN. Enfin, ce sont les incohérences de ce dossier qu'on n'a pas pu relever, et en tout cas, du point de vue de Solène Leprince, qu'on lui a systématiquement remise dans la figure, excusez-moi de l'expression, mais parce que elle, c'est comme ça qu'elle le ressent. Elle me dit, moi, mes questions, je n'ai pas de réponse, parce que Dany Leprince a été condamné. Aujourd'hui,
elle était bloquée, en fait, on a très bien compris. Elle était bloquée, désormais la voix sourde.
Et c'est pour elle que le chemin va être encore long, effectivement. C'est pour elle, finalement. Mais elle le veut.
Ce qui est vrai, c'est que Martine Pompin, c'est un mur de silence. Hein. On a essayé de la rencontrer, elle n'a jamais parlé. Elle n'a jamais parlé.
Enfin, du coup, elle a parlé aux enquêteurs avec de multiples versions, mais à nous, elle dit beaucoup de bêtises.
Elle n'a jamais parlé à personne. On a essayé de la rencontrer, on a essayé de passer par ses avocats de façon très officielle. Elle a toujours refusé de parler. C'est un mur du silence. Votre innocence, elle va poser problème, Dany Leprince, parce que ça veut dire que ça n'est pas vous. Ça veut dire que derrière, la justice s'est trompée. Donc, il va falloir qu'elle répare. Mais ça,
il faut surtout qu'elle trouve un coupable.
Il va se falloir maintenant trouver le coupable. Ça veut dire que c'est quand même pour elle un vrai
aveu d'échec. C'est comme ça que vous aviez raison de faire la comparaison avec l'affaire Diels, puisque 15 ans après l'acquittement de Patrick Diels, Francis Holm a été condamné. Donc si vous voulez, en réalité, nous affirmons que la vérité est en marche dans ce dossier, et que vous voyez la remarque que vous faisiez tout à l'heure par rapport à la couche. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Parce que vous avez eu entre les mains l'arrêt de la chambre d'accusation, et l'arrêt de la chambre d'accusation tronque la vérité.
Il faut reprendre des nouvelles.
En disant que qu'elle avait été changée, que la couche était propre, alors qu'il y a des déclarations de Nelly Hatton qui disent que lorsqu'elle l'a récupérée, la couche était sale. C'est-à-dire que, et c'est cela qui va être très intéressant pour le président de la cour d'assises qui va présider, c'est qu'il va avoir un arrêt de la chambre d'accusation qui saisit, parce que c'est cet arrêt-là qui saisit avec, je dirais, des erreurs considérable et un affaiblissement qui est effectué par la cour de révision.
Est-ce que maître le fameux major, vous allez lui demander de venir?
Il est mort. À ce
qu'il il est décédé malheureusement.
Ça c'est une autre difficulté, c'est-à-dire que nous demandons à ce que le procès puisse avoir lieu le plus rapidement possible, parce que les faits ont eu lieu en 1994. Il y a des témoins, des experts qui sont morts, et il faut pas attendre 3 ans, 4 ans, si vous voulez. Et nous avons conscience que les cours d'assises sont surchargées, mais nous allons prendre attache avec les chefs de juridiction pour que un procès puisse essayer, dans toute la mesure du possible, d'être organisé dans des délais qui soient raisonnables.
Mais ça veut dire donc qu'il faut tous faire l'effort collectivement de mettre de nouvelles lunettes et de repartir à zéro, avec ce prisme-là, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et c'est ça qui, je trouve, rend l'histoire passionnante.
Et notamment avec tout ce que je disais tout à l'heure, tous les indices dont on a parlé qui existent, qui avaient été mis de côté parce qu'ils ne rentraient pas, le rond ne rentrait pas dans le carré ou le carré ne rentrait pas dans le rond, eh bien là, ils vont venir appuyer au procès, et je fais confiance aux avocats de Monsieur le Prince, pour dire, regardez toutes ces incohérences qui ne désignent pas notre client, qui, au contraire, vont vers d'autres pistes, et elles ne pourront étudier ces autres pistes qu'une fois que le procès est terminé, où on va avoir déjà ce premier regard qui, et ça ne colle pas, et le deuxième regard, quand ça sera fini, de dire, mais maintenant on peut les utiliser pour une autre enquête, une autre instruction vers quelqu'un.
Qu'est-ce que risquent les gendarmes qui ont mal fait leur boulot? Comme dans l'affaire Liana, vous voyez?
Par exemple, une action en responsabilité contre l'État. Et puis, peut-être des actions récursoires derrière. C'est ce que je dis souvent, vous savez, lorsqu'il y a comme ça des dysfonctionnements qui sont graves de la justice. Parce que derrière, si jamais c'est une erreur judiciaire, et la Cour de révision en est parfaitement consciente, c'est l'une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. Il a fait 18 ans de prison. Personne d'autre dont la condamnation a été annulée, a fait autant de prison. Personne.
Le plus, c'était Patrick Diels qui en avait 14.
Merci. Merci à tous de vos lumières. Merci de vos éclairages. Merci de votre présence, Dany Leprince. Merci de nous avoir suivis.